VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 18h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessées dans un double attentat perpétré par deux femmes kamikazes dans un marché de Madagali dans le nord-est du pays ce vendredi matin. C'est ce qu'a annoncé l'armée nigériane. Les attaques ont visé un marché très fréquenté de cette ville de l'état d'Adamawa, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée Badare Akintoye. Les deux kamikazes se sont faites passer pour des clientes lorsqu'elles ont déclenché leur ceinture explosive, l'une dans la section du marché où l'on vend de la nourriture, l'autre près des stands de vêtements, a affirmé pour sa part le représentant de la municipalité de Madagali, Youssouf Mohamed. Ce double attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais le procédé utilisé est celui du groupe armé nigérian Boko Haram qui sème la terreur dans la région du lac Tchad depuis 2009. Le nord-est du Nigeria a connu une recrudescence des attaques ces dernières semaines, notamment à cause de la fin de la saison des pluies. Un nouveau coup dur pour le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a déclaré mercredi lors du sommet pour la sécurité à Dakar que la situation était sous contrôle. Ghana, le candidat de l'opposition à la présidentielle ghanéenne, Nana Akufo-Addo, se dit confiant dans sa victoire. Selon plusieurs médias locaux, il creuse l'écart, mais la commission électorale n'a publié jusqu'à présent aucun résultat officiel. Nani Talani.
Plusieurs médias locaux annoncent cette tendance. La chaîne privée Joy News, première télévision du pays, réputée sérieuse, affirme que Nana Akufo-Addo est vainqueur. La commission électorale poursuit le dépouillement des bulletins et n'a publié aucun résultat qui ne laisse deviner aucune tendance. Son site internet ne fonctionnait toujours pas, de même que l'application Funs App, prévue pour suivre en temps réel le décompte des voix. Les deux parties se renvoient la responsabilité de cette panne informatique. La présidente de la commission électorale, Charlotte Osei, a demandé à tout le monde d'être patient, soulignant que la précision est plus importante que la rapidité. Cette instance avait annoncé un délai de 72 heures à partir de mercredi soir avant d'annoncer les résultats définitifs. Nana Akufo-Addo, hier soir, s'est dit confiant d'avoir remporté une victoire historique. Le parti au pouvoir a qualifié cette annonce de ridicule.
En Côte d'Ivoire, là, le Conseil national de la presse sévit contre trois journaux pro-Gbagbo à 24 heures du démarrage de la campagne électorale pour les législatives du 18 décembre. Il leur est reproché de prendre parti en faveur des frondeurs du FPI, alors que c'est Afin Guessant qui est légalement reconnu comme chef de ce parti. Abdourahmane Dia.
L'organe de régulation de la presse ivoirienne accuse l'un des journaux, La Voix Originale, d'avoir attribué des titres et qualités à des frondeurs du Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, créant, selon le CNP, un bicéphalisme à la tête du FPI. Et la sanction est lourde, le journal est suspendu pour 26 parutions. LG Information et aujourd'hui écope d'une suspension de 7 parutions pour publication de fausses nouvelles. Ces trois journaux ne pourront donc pas couvrir la campagne électorale pour les élections législatives qui démarrent ce samedi. Ces journaux se disent victimes de menaces graves. Ils sont considérés comme proches de l'aile radicale du FPI qui appelle au boycott des législatives alors que le camp de Pascal Afin Guessant y participe. La Voix Originale et aujourd'hui avait déjà été suspendue en octobre dernier à la veille de la campagne pour le référendum constitutionnel.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burundi, le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a estimé inutile ce vendredi de continuer à contester la légitimité de l'élection en 2015 du président burundais Pierre Nkurunziza. Et il a exhorté les partis burundais à se concentrer sur la bonne tenue des élections de 2020 dans le pays. Ce n'est pas à moi de déterminer la légitimité du gouvernement du Burundi, a déclaré à la presse M. Mkapa, au terme d'une visite de trois jours au Burundi visant à relancer le dialogue dans la crise. Mais l'ex-leader tanzanien a ensuite déclaré « Des ambassadeurs viennent et présentent leurs lettres de créance au président Nkurunziza. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU le reconnaissent comme le président du pays. Nous perdons beaucoup de temps à discuter d'un événement qui est terminé », a-t-il souligné. C'est la première fois que M. Mkapa se prononce de la sorte sur l'issue des élections burundaises. Réaction de l'opposition au Burundi, les opposants récusent le facilitateur dans la crise burundaise avec effet immédiat. En RDC, un second dialogue politique est en cours à Kinshasa depuis jeudi sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les protagonistes de la crise dans le pays participent tous à ces assises de la dernière chance. Le président Joseph Kabila et le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, n'étaient pas présents à la cérémonie d'ouverture du nouveau forum hier, mais leurs délégués y ont pris part. L'objectif est de trouver un compromis politique sur la gestion de l'après 19 décembre, date qui marque, selon la constitution congolaise, la fin du mandat du président Kabila. Mise en perspective avec Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
6 points de divergence soulevés par les évêques catholiques seront au centre des débats. L'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la Constitution figurent parmi les sujets qui divisent les deux camps. Pour le député Deli Sesanga du Rassemblement des forces acquises au changement, il faut attendre une solution à la crise créée par la majorité présidentielle.
Aujourd'hui, nous nous battons pour la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans le meilleur délai et donner à ce pays les institutions légitimes que le peuple mérite.
À la majorité présidentielle, on s'appuie toujours sur l'accord du 18 octobre et on attend des propositions du Rassemblement. Lambert Mende espère un consensus sur les questions qui divisent.
Le dialogue a déjà commencé, il s'est terminé par un consensus. Il y en a qui étaient absents. Nous souhaitons élargir ce consensus dans l'intérêt du pays.
Les travaux ouverts jeudi devraient durer 3 jours, selon Mgr Marcel Outembi, Kinshasa, Roger Kalala de Top Congo pour La Voix de l'Amérique.
Conflit en Syrie maintenant. Après une interruption de plusieurs heures, l'aviation gouvernementale syrienne a repris ses frappes aujourd'hui sur le réduit rebelle à Alep. Des raids aériens qui avaient cessé jeudi soir après l'annonce surprise par la Russie, alliée du régime syrien, de l'arrêt des opérations de combat de l'armée syrienne dans la grande métropole du nord du pays. Il y a eu au moins 12 nouvelles frappes, a affirmé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. Les troupes gouvernementales bombardent aussi violemment à l'artillerie les derniers quartiers aux mains des rebelles à Alep-Est. Le président syrien Bachar al-Assad estime que la reprise de la seconde ville du pays représenterait un tournant dans la guerre. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Philippe Migaud, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie.
Et oui, parce que c'est la reprise de la dernière grande agglomération qui restait aux mains de l'opposition à Bachar el-Assad, que la chute d'Alep est symbolique, parce que c'est la reprise d'une place forte des opposants à Bachar el-Assad. Et puis aussi, cette prise de la ville va permettre de libérer des moyens militaires qui vont permettre de poursuivre la reconquête de la Syrie, que ce soit dans la région d'Idlib ou davantage vers l'est, dans la direction de Raqqa. Donc oui, très clairement, c'est une très grande victoire et c'est vraisemblablement un tournant dans la guerre, oui.
La chute d'Alep témoigne-t-elle de l'échec de la communauté internationale, mais d'une montée en puissance de la Russie avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier ?
Alors je pense que la montée en puissance de la Russie, elle est évidente et cela depuis plusieurs années maintenant, donc elle est absolument incontestable, que ce soit dans le dossier syrien ou dans d'autres dossiers. Est-ce que c'est un échec de la communauté internationale ? C'est très clairement un échec occidentale, dans la mesure où les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à forcer la main à la Russie sur le dossier syrien. Pour autant, est-ce un échec de la communauté internationale ? Non, je ne pense pas, parce que la communauté internationale ne se réduit pas aux seuls occidentaux. Très clairement, c'est un échec des occidentaux vis-à-vis de la Russie. Ça, oui, c'est certain. Je pense que le plus probable, c'est que Alep, les restes de la poche d'Alep seront liquidés avant la fin de l'année 2016.
Donald Trump, pendant la campagne électorale, a été très critiqué par ses adversaires ici aux États-Unis. Au sujet de ses supposées relations avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation ?
Écoutez, je pense que c'est une défaite majeure pour l'administration Obama, peu de temps avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche. C'est vraisemblablement une leçon pour les Occidentaux qui ne voulaient pas admettre depuis plusieurs années que la Russie était revenue au premier plan sur la scène internationale. Et je pense que Donald Trump va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec avec la Russie sur des bases, j'imagine, plus réalistes, en tout cas j'espère plus réalistes, de ce qu'est la puissance russe et de l'intérêt de s'en faire un partenaire, non pas un ennemi, sur la scène internationale.
Philippe Mingaud était en ligne de Paris. Merci de votre attention.